Chapitre 13. Une conséquence de ces recommandations fut que Jean-Noël écrivit à Marguerite une lettre à peu près semblable à celle qu'il avait imaginée. Puis il téléphona à Odile. La revoir lui était particulièrement désagréable. Mais il le fallait. Ne lui avait-il pas donné rendez-vous pour se rendre à Saint-Cloud ? Avec fierté, il dit à la jeune fille qu'il avait malgré tout voulu consulter sa belle-mère. Il n'était pas aussi abandonné qu'on le croyait. Dans les circonstances importantes, il avait en Annie une amie véritable. « Vous avez été voir votre belle-mère ? » demanda Odile, jalouse de ce qu'une autre personne qu'elle joua un rôle dans la vie du jeune homme. « Je ne comprends pas. » « C'est que ce que nous nous proposons de faire est très grave, » répondit Jean-Noël avec hauteur. « Si Marguerite prenait mal notre démarche, cela pourrait m'être préjudiciable. » Il était nécessaire et normal que je demande conseil à ma famille. Et vous n'avez pas demandé conseil à Madame Mourier ? Odile se maîtrisait avec peine. Elle ne comprenait pas que Jean-Noël pût s'inspirer d'une femme qui lui avait témoigné jusqu'ici tant de froideur. Si je vous ai proposé de vous accompagner à Saint-Cloud, continua-t-elle, ne croyez pas que ce soit par plaisir. C'est uniquement pour vous être agréable, pour vous rendre service. Si vous n'y tenez pas, je vous assure que je n'insisterai pas. » Jean-Noël essaya de persuader à Odile que c'était momentanément qu'il remettait ce déplacement, qu'il projetait de le faire un jour, mais qu'il fallait lui laisser le temps d'en faire accepter l'idée à sa belle-mère. Odile lui tourna le dos. Il ajouta, avec l'espoir d'arranger les choses, « Madame Ettlinger, ne l'oubliez pas, m'a élevé. Je lui dois obéissance. » « Je vous en prie, ne me parlez plus de votre belle-mère. Vous savez aussi bien que moi qu'elle ne vous aime pas, qu'elle ne vous a jamais aimé. Elle l'a prouvé. » Jean-Noël pâlit. « Je vous défends de dire cela. Vous ne m'en empêcherez pas. » Il partit avec la dignité d'un homme qui ne supporte pas qu'on dise du mal d'un être qui lui est cher. Le lendemain matin, il téléphona pour s'excuser. Mais Odile, au son de la voix de Jean-Noël, posa l'écouteur. Toute la journée, le jeune homme éprouva un malaise. Il se sentait seul. Il avait l'impression, bien que ce fût lui qui avait indisposé Odile, que personne ne l'aimait, que sa belle-mère ne songeait déjà plus à ce qu'elle lui avait dit, qu'elle avait repris ses occupations, que tout allait plus mal qu'auparavant, puisqu'il n'avait même plus l'espérance de se marier. Depuis longtemps déjà, Madame Mourier s'était aperçue que Jean-Noël n'était plus le même. Elle avait mis ce changement sur le compte du souci qu'il se faisait pour ses familles, comme elle disait, « car je ne suppose pas, avait-elle confié à une amie, qu'il resterait chez moi s'il ne m'aimait pas. » Elle était pourtant inquiète. Aussi avait-elle pris l'habitude de chercher, une ou deux fois par semaine, Jean-Noël à l'étude, afin de resserrer, par le spectacle de son intimité avec le notaire, les liens qu'il attachait au jeune homme. Il y avait 8 jours que Jean-Noël n'était pas retourné boulevard du Montparnasse, lorsque Madame Mourier se rendit chez Maître Préfil, cet ami dévoué qu'elle avait toujours considéré, disait-elle, malgré son âge, comme un enfant. Il ne s'agissait pas cette fois d'une visite amicale. Il lui était apparu qu'elle serait beaucoup plus forte vis-à-vis de Jean-Noël si celui-ci, sans qu'elle le prévînt, apprenait qu'elle voulait régulariser sa situation, c'est-à-dire divorcer. Dans l'antichambre, elle se trouva en présence d'une jeune fille, presque entièrement cachée par un bureau étroit et haut. Au moment où Laure allait lui adresser la parole, le principal traversa la pièce. À la vue de la visiteuse, il s'arrêta, s'inclina. « Est-ce que vous voulez avoir l'amabilité de dire à Maître Préfil que je voudrais le voir ?» fit Madame Mourier avec ce visage épanoui qu'elle avait quand un chef écartait ses employés. Quelques instants après, elle pénétrait dans le cabinet du notaire. Il la reçut avec sa bonhomie habituelle, toujours flatté qu'il était quand des jeunes femmes, et même des jeunes hommes, semblaient aimer sa compagnie. Après l'avoir interrogé sur Jean-Noël, de telle manière que, si Maître Préfil n'en avait pas été satisfait, elle l'eût déploré au lieu de défendre son ami, elle s'assit en amazone sur un accoudoir de fauteuil. Puis elle demanda au notaire, comme s'il y avait entre celui-ci et elle des liens qui l'autorisaient à le faire, d'écrire personnellement à son mari pour lui conseiller d'engager une action en divorce. elle ne voulait pas le faire elle-même pour des raisons qu'elle n'avait pas le temps d'énumérer. Embarrassé, Maître Préfit lui répondit qu'il ne connaissait pas M. Mourier et que, par conséquent, il n'était pas qualifié pour écrire une telle lettre. « Je vous le demande, maître, » dit-elle en le regardant dans les yeux. « Non, non, c'est vraiment impossible, » répondit le notaire, confus d'être obligé de refuser. « Pour moi, cher ami, vous pouvez faire une exception. » Fort heureusement pour Maître Préfil, cette conversation fut interrompue par Jean-Noël, qui, comme il en avait l'habitude, venait prendre congé de son patron. À la vue de Laure, si familièrement assise, il ne put s'empêcher de penser qu'elle était vraiment ridicule. « Vous n'êtes pas content de me voir ? » dit-elle en souriant. Puis elle continua de causer avec Maître Préfil afin de montrer à Jean-Noël qu'elle était une amie, comme de beaucoup d'autres personnages, du notaire, et qu'en conséquence, il n'y avait rien d'étonnant à ce que celui-ci fût si indulgent pour son collaborateur. « N'est-ce pas que Maître Préfil est un être exquis ? » dit-elle dans l'escalier, car elle qualifiait ainsi tous les hommes qui lui témoignaient des égards. Jean-Noël haussa les épaules. Décidément, Madame Mourier était de plus en plus ridicule. Ils avaient fait quelques pas ensemble lorsqu'Émile, qui attendait son frère depuis une quinzaine de minutes, s'avança vers le couple. « Ah, c'est toi ?» dit-il comme s'il était surpris de rencontrer Jean-Noël et sans tenir le moins du monde compte de Madame Mourier. « J'allais te chercher. Pourquoi ? J'ai à te parler. » En disant ces mots, sans bouger la tête, il tourna les yeux vers Madame Mourier qui, comme une femme dont le mari est accosté par un de ses subordonnés, s'était éloignée pour que Jean-Noël comprît qu'il désirait le tête-à-tête. Il pouvait même l'exiger. Entre un frère et une maîtresse, on n'hésite pas une seconde. « Veux-tu m'excuser ? » dit Jean-Noël à Laure. « Mais certainement, » répondit-elle avec une amabilité pleine d'ironie. N'étant d'aucune société, ce dont elle souffrait d'ailleurs, elle détestait avec d'autant plus d'assurance l'esprit de famille qu'elle sentait confusément qu'il existait toute une catégorie de gens qu'elle appelait intelligents qui l'eût approuvé. Jean-Noël conduisit Émile dans un café. « Maintenant, parlons » fit-il avec bonne humeur, comme si lui aussi avait quelque chose à dire à son frère. « Je ne plaisante pas, » répondit Émile. « Tu ne plaisanterais pas non plus si tu étais à notre place. Évidemment, tu aimes mieux ne rien voir. Pourtant, dans la situation où tu es, il y a longtemps que tu aurais pu faire quelque chose pour notre mère et pour moi. » « Dans quelle situation t'imagines-tu donc que je suis ?» demanda Jean-Noël. « Si, au lieu de distribuer l'argent qu'il gagnait, il l'avait gardé, peut-être eût-il été dans cette situation privilégiée dont Émile venait de parler. Et tout le monde lui en voulait, et tout le monde prétendait qu'il était égoïste. Pour aider Marguerite et Madame Mercier, il en avait été réduit à se faire l'obligé de Madame Mourier. Cela non plus n'était pas suffisant. » « Tu ne me feras pas croire, » dit Émile, « que tu n'as pas d'argent. Tu en as bien quand il s'agit de faire ta cour à notre belle-mère. » Ce qui provoquait cette attaque, Jean-Noël venait de le deviner, c'était le désir qu'il avait eu et qu'il n'avait plus de faire transporter à Paris le corps de son père. Émile ne le lui pardonnait pas. N'était-il pas autant que son aîné le fils de Jean Melchior ? Comme il avait toujours affirmé que Jean-Noël n'était qu'un beau parleur, qu'on ne pouvait compter sur lui, puisqu'il avait passé dans le camp adverse, c'est-à-dire dans celui des Villemur, il était naturel qu'il trouvât honteux que ce fût justement le traître qui s'arrogeât aux dépens des fidèles l'honneur de cette initiative. Car, 10 ans après la mort de Jean-Melchior Ettlinger, le prestige qu'avait valu à celui-ci auprès d'une femme comme Madame Mercier d'être le mari d'une Villemur ne s'était pas encore complètement évanoui. « Je te répète que je n'ai pas d'argent, » continua Jean-Noël. Il ne se donnait plus la peine de cacher sa mauvaise humeur. L'attitude ridicule qu'avait eue Laure chez Maître Préfil, la légèreté avec laquelle il avait sacrifié l'amitié d'Odile, le silence qu'observait Annie depuis qu'elle lui avait parlé à cœur ouvert, lui étaient revenus à l'esprit. Il avait l'impression d'être chargé de pierres. Il n'avait même pas le droit de les poser un instant. Où qu'il se rendît, il fallait qu'il les transportât avec lui. Nous avons été patients jusqu'à présent, dit Émile sans se démonter, mais si tu le prends sur ce ton, cela va changer. Cette insolence plongea Jean-Noël dans un profond étonnement. Son frère dépassait la mesure. Que signifiait cette menace? Il donnait tout ce qu'il gagnait et on estimait que ce n'était pas suffisant. N'allait-on pas lui demander bientôt de commettre des escroqueries? Je gagne 1 000 francs par mois, fit Jean-Noël sèchement. J'ai une femme, un enfant à ma charge. Moi-même, il faut que je vive. Comment veux-tu que je fasse davantage pour vous? Personne ne t'oblige de donner tant d'argent à ta femme. D'ailleurs, si tu voulais, tu pourrais très bien en emprunter à Madame Mourier et à ta chère belle-mère. Mais ces gens, tu les ménages. Tu préfères nous laisser dans la misère sans avoir de quoi acheter du charbon. Nous t'avons prié, je ne sais combien de fois, de me trouver une situation. Tu ne l'as jamais fait. C'était vrai, en effet. Mais Émile avait omis de dire que chaque fois qu'une place lui avait été offerte, il avait refusé avec hauteur. Il était autant que son frère. Ce n'était pas parce qu'il n'avait pas reçu la même éducation qu'on devait lui proposer ce qui avait été dédaigné par d'autres. Tu as peur, continua Émile, que je ne te compromette auprès de ta chère Annie. Tu as peut-être peur également qu'elle ne s'intéresse à moi. Oh, cela, non. Tu ne vois pas qu'elle se moque de toi? Elle ne t'a fait que du tort et tu l'admires. Elle t'a forcé à t'engager et quand tu es revenu, elle ne s'est même pas occupée de toi. Et c'est devant cette femme que tu te mets à genoux. Ne parle pas de ce que tu ignores. Personne ne m'a forcé à m'engager. D'ailleurs, cette conversation a assez duré. Jean-Noël appela le garçon. Il ne pouvait plus supporter son frère. Jamais celui-ci n'avait osé lui parler ainsi. Jean-Noël avait cru que, dès qu'il montrerait un peu de fermeté, Émile battrait en retraite. Or, il venait de s'apercevoir avec étonnement que ce jeune homme avait une énergie de fer et que lui, son aîné, ne l'intimidait pas le moins du monde. Alors, demanda Émile, que décides-tu ?
« Rien. »«
C'est bien, nous agirons. »«
Qu'est-ce que tu appelles agir ?» demanda Jean-Noël avec mépris.
« J'irai voir Annie. Je lui peindrai notre situation. Je lui montrerai tes lettres, celles dans lesquelles tu nous promets des sommes que tu ne nous as jamais données. » C'était la menace sur laquelle Émile avait compté le plus. Il y avait quelques années, Jean-Noël aurait supplié son frère de n'en rien faire. Pour le retenir, il lui aurait offert tout ce qu'il possédait. Il ne broncha pas. Ou sa belle-mère l'aimait et cette manœuvre serait sans conséquence, ou elle ne l'aimait pas, alors qu'importait ? Émile passa la soirée à chercher dans les paquets de lettres soigneusement ficelés qu'il conservait aussi précieusement que des papiers ayant trait à la généalogie de sa famille, celle de Jean-Noël dont il pouvait faire usage et celle datée du 15 septembre 1915 où Jean-Melchior avait écrit, quelques jours avant sa mort, ces phrases que Madame Mercier citait presque chaque jour et qui, à ses yeux d'abord, à ceux de son fils ensuite, étaient devenues légendaires. « Crois-moi, s'il m'arrivait quelque chose, tu ne manquerais de rien. Une somme de 50 000 francs, au moins, te serait remise. »
« Tu n'as pas l'intention, j'espère, d'emporter cette lettre ?» dit Madame Mercier en voyant Émile la mettre dans son portefeuille.
« Il le faut !»«
Non, je ne veux pas. C'est imprudent. Si tu la perdais ou si Madame Etlinger te l'arrachait des mains, nous n'aurions plus rien, nous serions à leur merci. »